Bonjour à Tête au Carré, c'est Nicolas de Marseille. Alors, pour faire écho à l'émission d'hier sur la géologie, je vous envoie ce message en direct de l'entrée de la grotte de Gros Hibou, dans les collines de Marcel Pagnol, au sommet du Taoumet. Petit frère d'un magnifique sommet karstique qui n'est plus une colline, mais qui n'est pas non plus une montagne, c'est Garlaban. Ben, je peux voir en direct ce magnifique phénomène d'érosion de l'eau dont vous parlez hier. Magnifique phénomène qui peut aussi malheureusement créer de terribles désastres. Alors, j'ai une grosse pensée pour tous les Marseillais qui ont subi ces inondations hier. Merci pour une émission, pour votre émission, et surtout ne l'arrêtez pas, car sinon, comme l'aurait dit Lily Debello, encore une source de perdu. Bonne journée.
Oui, bonjour, c'est Martine de Saclay. C'est pour faire part de notre lutte sur le plateau de Saclay pour conserver nos terres agricoles nourricières, qui sont menacées par l'arrivée d'un métro totalement surdimensionné et qui va traverser le plateau agricole, réduisant à néant les efforts des agriculteurs qui se battent pour les conserver depuis des années. Notre collectif s'appelle Non à la ligne 18 et nous avons rejoint un collectif parisien qui organise le week-end prochain, les 9 et 10 octobre, une marche des terres convergente sur Paris. Une part évidemment du plateau de Saclay, une autre de Triangle de Gonesse, etc. Toutes les informations sur lesmarchesdesterres.com. Merci de nous rejoindre et de participer à la préservation de nos terres agricoles. À bientôt.
Oui, bonjour, Jean-Pierre Saint-Soupé. Écoutez, un sourire au milieu de ce marasme écologique que nous vivons. Et une très jolie émission, un documentaire sur la 5, sur le ré-ensauvagement de l'Europe du Sud, avec réintroduction d'ours et d'autres animaux, et notamment un chiffre assez impressionnant, par arriver à passer d'une quarantaine de chamois en perte de vitesse à 2000, et donc ça fait du bien de temps en temps de voir un sourire écologique au milieu de toute cette merde. Au revoir.
Bonjour la Terre au Carré, je suis Isabelle du collectif Important pour la Planète de Bugy, en Haute-Savoie. Nous serons aujourd'hui et demain à Paris avec des associations et entreprises à l'occasion des Rencontres pour la Planète. 40 projets qui agissent pour répondre à l'urgence et donner des solutions pour demain. Notre objectif est de collecter 1 million d'euros pour la biodiversité, le climat, la santé et bien d'autres sujets environnementaux. Alors jusqu'à demain soir, on vous donne rendez-vous sur notre page Facebook 1% for the Planet France pour suivre l'événement en direct, choisir et soutenir les projets qui vous inspirent. Alors, on compte sur vous. Merci.
Ce message de Coralie en Martinique dédié à Camille Cronier. Autour de moi, le chant des petites grenouilles arboricoles. Vous pouvez les entendre. Alors, pour les urbains qui n'aiment pas la nature, ne venez pas en Martinique. Les coqs chantent jour et nuit et les grenouilles toute la nuit. Je vous les refais écouter un petit peu. Bonne journée et merci pour vos émissions.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Alors que deux des trois prix Nobel de physique récompensés aujourd'hui étudient le climat terrestre et la façon dont l'humanité l'influence, et bien la crise climatique est aussi devenue un véritable sujet d'angoisse. Une étude publiée en septembre sur les jeunes a suscité beaucoup de sidération. 45% des 10 000 jeunes interrogés, issus d'une dizaine de pays, déclarent en effet une éco-anxiété dans leur vie de tous les jours. 75% jugent même le futur effrayant. De plus en plus d'études scientifiques montrent un lien entre les troubles psychiques et les enjeux environnementaux. Alors qu'est-ce qui provoque exactement cette angoisse climatique? Comment lutter évidemment contre ce stress? Eh bien, c'est le dossier de l'émission. Avec nos invités, le psychiatre Antoine Pellissolo, Célie Massini, interne en psychiatrie, et Jean Le Goff, docteur en sociologie. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Antoine Pellissolo, vous êtes professeur à l'Université Paris-Est Créteil et vous publiez avec Célie Massini les émotions du dérèglement climatique. Ça sort chez Flammarion. Jean Le Goff, vous travaillez vous à l'Université de Paris. Vous avez fait votre thèse sur le militantisme au sein du mouvement alternatif. débat qui aborde à la fois l'angoisse et la mobilisation climatique. Et nous avons déjà énormément de questions et de témoignages de la part des auditrices et des auditeurs sur ce thème des troubles psychiques liés à l'environnement. On va donc vous les transmettre et les entendre dans un instant. La page de la Terre au Carré pour nous rejoindre, les réseaux sociaux et l'appli France Inter. 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors vous l'avez dit, hein, oui, le prix Nobel de physique récompense en particulier des travaux de modélisation du climat de la Terre. Je vais vous en dire un petit peu plus.
Valérie Ayestarai réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati, Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Sofiane Artib à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Tous les écologistes le savent, écologie ça rend dépressif, c'est vrai. La biodiversité, le climat, c'est vraiment la merde. Et en plus on le passe pour des cons. Alors comment réussir son malheur tout en sauvant la planète? Bon, d'un côté il y a les antidépresseurs naturels comme le millepertuis, faut pas les récolter soi-même et tout, bon. De l'autre côté on a les groupes de parole, vous pouvez essayer les groupes de parole, parler, tout ça, et bon. Moi, la solution que je préconise, c'est vin bio, parce que de toute façon, ce serait simple, au bout d'une bouteille, soper la planète et tout, on n'a plus rien à branler, on s'en fout, on va tous mourir en plus, alors en franchant, attends, on barre des coups. Merci.
Voilà. Bah, c'était Bridget Kyoto. Je ne suis pas sûr que ces méthodes soient approuvées par nos invités, en particulier Antoine Pellissolo. Hein. C'est pas, la solution, c'est pas dans le vin bio, on est d'accord. Hein.
Malheureusement, non.
Les impacts du dérèglement climatique, donc, sur le psychisme. Dossier avec vous, Antoine Pellissolo, Céline Massini et Jean Le Goff. Questions et témoignages des auditeurs. Je le disais tout à l'heure dans le sommaire. Le 14 septembre était publiée dans The Lancet une étude, vaste étude, hein, sur l'éco-anxiété. 10 000 jeunes habitants des pays du Nord comme du Sud, hein, parmi lesquels la France, les États-Unis, la Finlande, l'Inde, le Nigeria ou le Brésil. Et cette étude montrait donc le fort sentiment d'anxiété et de culpabilité aussi partagé par la majorité donc des jeunes interrogés. Une personne sur deux considère même que l'humanité est condamnée. Je vais vous demander à tous les trois ce que vous pensez de cette étude. Je commence avec vous, Céline Massini, par exemple.
Alors, cette étude,
c'était une surprise ou pas pour vous, ces résultats?
Non, pas du tout. Cette étude, je pense qu'elle est très intéressante parce qu'elle donne des chiffres concrets, ce dont on manquait. Et d'ailleurs, c'est dit dans l'introduction de cette étude qu'il y avait beaucoup de données qualitatives, donc qui sont des témoignages. Et là, ils ont fait quelque chose de standardisé avec des questionnaires qu'ils ont fait passer à un très très grand nombre de personnes. Et donc du coup, ça nous donne une idée de l'ampleur du phénomène. Et donc forcément, bah, ça donne plus de poids pour envisager des politiques de santé publique.
Ouais.
Donc oui, cette étude, elle est majeure.
Antoine Pellissolo, est-ce que cette étude fait écho à ce que vous observez, vous, dans votre cabinet, par exemple, avec une montée de ces angoisses?
Oui, en tout cas, dans les populations jeunes, comme on dit, c'est-à-dire les patients, là c'est 16-25 ans, je crois.
Oui, c'est ça,
vraiment les,
ouais,
les personnes les plus sensibles, et avec une thématique, en effet, alors qui n'est pas réservée qu'à une catégorie de personnes qui seraient éco-anxieux. C'est un peu tout le monde, avec, nous on a, c'est sûr, beaucoup de personnes anxieuses, de toute façon, chez nos patients, donc c'est une des thématiques importantes, avec cette notion d'inquiétude vraiment viscérale sur l'avenir, enfin sur le propre avenir de ces personnes. C'est vrai que là, il y a un effet de génération, les générations un peu plus anciennes se poser des questions, ils s'en posent, mais en général c'est plutôt pour leur descendance, hein, alors que là on est vraiment dans son avenir, dans les décennies qui viennent.
Ouais. Est-ce que c'est un phénomène qui s'est amplifié après la crise de Covid et que vous observiez déjà avant la crise sanitaire ou pas?
Ça a été assez net, il existait déjà, mais ça s'est vraiment amplifié avec cette idée que voilà, on est confronté à des réalités de la nature qui prend le dessus dans certaines situations et dans laquelle on revient à notre petite condition d'espèces fragiles, malgré tout.
Jean Le Goff, les résultats de cette étude ne vous surprennent pas non plus en tant que sociologue?
Ça ne surprend pas, l'angoisse des jeunes ne surprend pas, mais l'ampleur de cette angoisse est quand même surprenante.
Ouais.
Ce que je trouve très fort dans cette étude, c'est la libération de la parole sur ce sujet. C'est-à-dire que non seulement les jeunes se sentent angoissés, mais en plus ils mettent un mot dessus et ils se disent angoissés. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi beaucoup d'angoisse qui peut être pas partagée, voire inconsciente. Et une autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était les différences entre les pays. C'est la première étude qui a un spectre aussi large. Et on voit en fait que les pays les plus pauvres et les plus vulnérables au changement climatique sont aussi les pays où il y a le plus d'inquiétude. Aux Philippines, il y a 84% des jeunes interrogés qui se disent inquiets ou extrêmement inquiets.
Oui.
beaucoup plus qu'en France. Donc là où on avait l'impression que c'était un problème, l'éco-anxiété surtout de classe privilégiée.
Voilà. Ouais, riche, ouais.
C'est justement ce que je voulais vous demander sur les, quand on dit les jeunes, ce sont toutes les catégories de jeunes, de familles, catégories socioprofessionnelles qui ont été interviewées, parce qu'effectivement, on dit souvent que, notamment dans les militants, c'est un peu souvent le même profil, des jeunes issus de catégories socioprofessionnelles privilégiées. Aujourd'hui, toutes les catégories sont concernées par cette angoisse, Célie Massini.
Oui. Oui, oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans cette étude. Et un autre point qui est assez intéressant dans cette étude aussi, c'est que il y a 80% des personnes interrogées qui disaient en avoir fait part à leur entourage, et que plus de la moitié de ces personnes disaient que leurs émotions et ce qu'ils avaient pu partager avaient été minimisées, voire complètement annulées par les personnes à qui ils s'étaient confiés. Et ça fait partie des pistes majeures qui ont été tirées de cette étude, de déjà pouvoir entendre cette douleur et cette difficulté et ces inquiétudes qui ont tout lieu d'exister.
Alors Antoine Pédissolo, on va encore un mot sur l'étude et puis on parlera plus largement des troubles psychiques. Les corrélations justement dans l'étude montrent que l'anxiété et la détresse sont liées justement à la réaction inappropriée au fond des gouvernements et au sentiment de trahison associé. Donc ça c'est extrêmement important, il n'y a pas que le facteur environnemental en lui-même, il y a la prise en charge de ce problème. Hein.
Oui, il a l'impression de ne pas être écouté, de pas aller dans le bon sens. C'est ça qui fait que le titre de notre livre, c'est les émotions. Les émotions, elles sont complexes, elles sont riches, elles sont dans la douleur en général, mais il y a aussi ce sentiment de ressentiment justement ou de colère parfois qui vient exacerber aussi cette détresse. Donc c'est là, c'est dans une étude, mais c'est vrai quand on voit, quand on parle à des personnes concernées, il y a vraiment toutes ces émotions qui remontent, qui sont très fortes et dans lesquelles en effet le partage est vraiment essentiel.
Après. Allez, on va écouter une première note vocale, celle de Claire, qui nous a joint sur l'appli France Inter.
Bonjour, j'ai 22 ans et je fais des études d'ingénieur agronome, notamment par rapport aux enjeux que l'on va avoir pour demain vis-à-vis du dérèglement climatique. Je vois par rapport à moi ou même les gens qui m'entourent dans cette filière que c'est quelque chose qui est extrêmement stressant, car c'est une réelle angoisse en fait de pas savoir quel est le monde que l'on va avoir pour demain. Pour les personnes qui envisagent d'avoir des enfants, déjà la remise en question en fait de la parentalité juste à cause de cette question du monde de demain en fait que l'on va avoir, ce sentiment aussi d'impuissance en fait, de pas avoir la main mise sur ce qui se passe, en tout cas que ça dépend pas que de nous, ça dépend de tout le monde, que sinon on va droit dans le mur.
Claire, donc 22 ans, merci pour son témoignage. Célie Massini, vous voulez lui répondre sur ce sentiment justement d'impuissance parce que à l'échelle individuelle finalement ça suffit pas et que ça se passe au-delà pour pouvoir être vraiment efficace.
C'est justement un des messages principaux du livre, de dire qu'il faut sortir de cette hyper-responsabilisation individuelle qui est à l'origine d'énormément de souffrances pour chacun, puisque effectivement, c'est pas un individu tout seul qui va régler la crise climatique. Et il y a vraiment une nécessité de reprendre la juste mesure de sa responsabilité personnelle face à ce qui se passe. Et on ne pourra pas s'en sortir s'il n'y a pas d'implication de nos dirigeants et des personnes qui ont un impact très grand sur ces problématiques-là.
Jean Le Goff, ça ressort de cette étude que vous avez menée auprès des militantes d'Alternatiba, justement cette dimension collective.
Déjà, avant ça, ce que je voulais dire à Claire, c'est que moi, ça fait beaucoup écho ce que vous dites, Claire. Moi, j'ai fait des études en développement durable côté sciences humaines. Et aussi, pendant mes études, c'était il y a 10 ans, j'ai été extrêmement angoissé par ce que nous racontaient nos profs et par ce que je ressentais de mon propre sentiment d'impuissance. Donc moi, j'ai navigué à travers ça en me lançant dans une recherche sur le sujet et en me centrant justement sur ces éprouvés d'angoisse. Mais je trouve ça important de le dire, que ouais. Ça part vraiment d'une question personnelle.
C'est la racine vraiment de votre travail sociologique, au fond. C'est votre propre angoisse qui a suscité votre intérêt pour le sujet.
Voilà. Ouais. Mon angoisse, c'est aussi l'observation que c'était très compliqué de mettre ça en partage. Dans mes études, en fait, on parlait très peu de ce qu'on ressentait face aux cours, ou alors sur le ton de la blague, du second degré. Et ensuite, quand je suis rentré dans le mouvement Alternatiba, là aussi, bien que je sois avec des militants et des militantes, il y avait l'idée que l'angoisse était forcément paralysante, et donc en fait, on en parlait très très peu.
Et donc, pour parler juste de l'aspect collectif, par rapport au mouvement Alternatiba, qu'est-ce que vous voulez lui répondre à Claire sur le fait que justement, seul, on se sent vraiment très impuissant?
Oui, bah ça je suis entièrement d'accord. C'est aussi à moi quelque chose que je porte très fortement. Quand on met en partage les angoisses, ça les transforme complètement. C'est-à-dire que d'un affect qui est insupportable et qu'on a envie de mettre de côté, d'enfouir sous terre, on peut faire un affect qui non seulement prend une forme possible, même des fois qui prend des formes assez belles, parce que ça parle aussi de notre attachement à la terre, à la nature et aux humains, donc c'est en fait quelque chose de très beau, cette angoisse aussi. Et surtout, ça a une force politique et créative qui est très importante.
Camille, beaucoup de messages déjà.
Oui, Nicolas, par exemple, qui nous écrit simplement ce petit témoignage. C'est pas l'écologie qui m'angoisse, mais l'inaction, hein, pour rebondir sur ce qu'on disait, l'inaction de celles et ceux qui ont les manettes du pouvoir public et puis qui pourraient changer le cours des choses.
Allez, on en parle, c'est le dossier de la Terre au Carré. Vos messages, vos témoignages sur franceinter.fr.
Quand l'amour s'en vient comme un torrent, en mon cœur prisonnier du courant, je voudrais chanter l'amour trouvé. Ouh, 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 oui. Que fais-tu, amour, sur le palier? Qu'en sais-tu, amour? Je suis trempé. Je voudrais chanter l'amour trouvé. Ouh, 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 oui. Fini battlefield.
C'était la voix de Jean-Louis Murat.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Ce sont des images qui tournent en boucle sur tous les écrans. Celles d'une planète qui se dégrade sous nos yeux, en temps réel. Anxiogène, cauchemardesque. L'idée de l'effondrement irréversible du monde tel qu'on le connaît se répand et a des conséquences sur notre morale.
Ça me stresse, c'est vrai. Ça me stresse. Dans mon quotidien.
Bon, malheureusement, je ne serai plus là pour voir ce qui va se passer, mais ça m'inquiète beaucoup.
Un sujet d'inquiétude qui peut se transformer en une angoisse plus profonde. L'éco-anxiété ou burn-out écologique. Valentine Cancel dit en avoir été victime.
Bonjour Valentine.
Bonjour. Il suffit de voir les migrations climatiques qui vont être générées, les conflits que ça risque de créer.
Ça m'empêche d'avoir des perspectives d'avenir que j'aurais aimé avoir, par exemple fonder une famille. Elle ne se sent pas en capacité d'assurer une sécurité pour un enfant, en fait, ça nous paraît irresponsable.
Voilà, reportage du 19-20 de France 3 en 2019. Antoine Pellissolo, je voulais vous faire réagir justement sur ce phénomène qui semble aussi prendre de l'ampleur, ces familles qui souhaitent ne plus faire d'enfants pour les protéger justement, ou en manque d'horizon. Qu'est-ce que vous observez là-dessus?
Oui, alors moi c'est quasiment ça qui m'a le plus frappé au départ et qui m'a un peu motivé à ce travail de fond, parce que le discours de jeunes personnes, en effet, de jeunes femmes qui vous disent que probablement, alors c'est jamais certain dans les actes, mais probablement elles ne se sentent pas d'avoir des enfants eux-mêmes, elles-mêmes, alors que jusque-là, l'espèce humaine a toujours fonctionné sur l'idée de se projeter, de transmettre quelque chose, et c'est ça qui nous fait affronter les angoisses de mort, évidemment. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission possible, et c'est à la fois le signe qu'il y a une prise de conscience très, très lourde, et puis quelque chose d'inquiétant si ça se matérialisait. Alors,
mais ça s'observe déjà dans les chiffres, scientifiquement,
oui, alors, quelque chose ou pas? Oui, il y a des chiffres qui montrent une augmentation de cette position, qui reste encore une fois, pour l'instant, dans la plupart des enquêtes, des positions un peu théoriques. Mais chez des jeunes, dans les jeunes générations, on peut craindre que ça augmente et que ça se matérialise par une diminution de la fécondité et avec les conséquences.
On donne un nom à ce phénomène, hein, les jinx, hein, c'est ça?
Oui, c'est les gens qui ont cette conscience de l'avenir climatique et no kids, on n'aura pas d'enfants.
Green inclinations, no kids.
Voilà. Et vraiment avec cette idée que d'une part, il ne faut pas rajouter des êtres humains sur la planète et puis en plus ne pas les exposer eux-mêmes, ses propres enfants, à un avenir conçu comme une catastrophe quoi, pour les visions extrêmes.
Et on entendait aussi parler de burn-out dû à la situation environnementale, Céline Massini. On peut faire vraiment un burn-out en raison de ce qui se passe autour de nous, sur la planète?
Alors je pense oui. Notamment ça a été plutôt décrit chez les personnes dont le travail est lié à l'étude du dérèglement climatique. Donc au début chez des chercheurs plutôt en géologie, en physique, etc. C'est ce qui a motivé les travaux de Johanna Massise sur le travail qui relie. Donc où en fait elle a invité des chercheurs qui toute la journée étudient ces éléments qui sont quand même très angoissants à parler de leurs émotions, parce que encore une fois quand on fait de la recherche on n'est pas invité à parler de ce qu'on ressent en tant que personne individuelle et du coup, ben, c'est aussi, je pense, ce qui s'est passé avec votre travail, Jean Le Goff, quand vous parliez avec des militants qui, ben, toute la journée, travaillent avec ça.
Ouais, d'ailleurs, vous expliquez que l'activisme, c'est aussi une façon de dépasser l'angoisse, le fait de s'engager aussi.
C'est un petit peu compliqué parce que c'est à la fois dépasser l'angoisse, mais en même temps on est constamment dans des informations compliquées, dans des actions de désobéissance civile face à la police. Donc il y a aussi plein de situations anxiogènes. Et alors moi ce que je vois beaucoup dans le mouvement Alternativa notamment, c'est un surinvestissement de l'activité. C'est-à-dire que les militants et les militantes sont constamment dans de l'action pour certains, avec des rythmes qui sont clairement pas soutenables. Ouais. Parce que ça permet aussi de tenir et de faire face à l'angoisse.
Alors on a justement un message d'Hélène là-dessus sur franceinter.fr qui nous écrit « Je suis passée d'Alternativa à des actions de plus en plus musclées, à ANV COP21, Extinction Rébellion, etc. Le dérèglement climatique me fait tellement peur que je me sens de plus en plus radicale et déterminée. » Et elle ajoute qu'elle a 67 ans, Jean Le Goff. C'est ça, c'est qu'en fait, face à sa propre angoisse, on est suractif de l'activisme.
Alors, c'est très important d'agir. C'est très important aussi de prendre des respirations, de prendre des temps de pause pour s'autoriser à ressentir ce qui se passe, pour pas que l'action soit utilisée comme une défense contre l'angoisse, comme une manière de se couper de ce qu'on ressent.
On va écouter le témoignage de Samuel sur une note vocale de l'appli France Inter sur le sens à donner justement à cette question.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Samuel, j'habite en Loire-Atlantique depuis peu de temps et si j'ai déménagé aujourd'hui à la campagne, c'est en grande partie à cause de cette angoisse climatique qui m'a poussé à quitter les centres-villes qui devenaient invivables pour moi. Et maintenant aussi, cette angoisse, elle me pousse à changer de métier parce que c'est pas le tout de la subir, mais maintenant j'ai envie d'agir et de faire quelque chose à mon niveau pour aider les choses.
Voilà, là aussi Antoine Pellissolo, est-ce que vous voyez beaucoup de gens qui passent à l'acte, qui vraiment changent de vie pour mieux vivre cette angoisse?
Ou mieux vivre en général déjà, ouais. Hein, mais c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui à remettre en cause, ça c'est beaucoup là quand même la crise sanitaire, mais ouais. Remettre en cause des choix de vie importants. Alors il y a l'action qui est pas forcément jusqu'au militantisme, mais en fait se sentir utile, s'engager dans une association,
dans le mouvement, hein,
ouais. Dans le mouvement et le partage. Je crois que c'est sûr que c'est quand même une façon de réduire le niveau d'anxiété en étant le moins passif possible, le moins spectateur possible, parce que quand on est que spectateur de choses qui font peur, on sait bien que ça augmente encore plus, ouais. La peur.
Il y a plein de termes, hein, qu'on utilise, donc le deuil écologique, l'éco-anxiété, on l'a beaucoup cité, la solastalgie aussi qui est plus connue maintenant du public, le burn-out écologique, mais est-ce que pour autant le diagnostic figure aujourd'hui dans les classifications des maladies psychiatriques, Antoine Pellissolo ?
Non, parce que d'ailleurs, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'en faire une entité, alors ça c'est tout un débat en psychiatrie, ouais, des ouais. Entités maladives. Aujourd'hui, c'est une thématique, on va dire, et les gens en souffrent à un degré variable. Ouais. Ils en souffrent parfois vraiment gravement, donc il faut les aider dans ces cas-là. Mais sinon, c'est une thématique comme un sujet en effet d'inquiétude comme d'autres. Et vraiment, le problème serait de nier la réalité, évidemment, qu'il y a derrière, en disant c'est le fruit de l'imagination, c'est des exagérations. Et on sait que non. Donc il y a des variations de degré et de contenu de ces peurs. Parfois, le fait d'en parler à un spécialiste peut être utile pour voir justement est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à accompagner. Mais pour l'instant, on n'en est pas en effet à définir une maladie.
Camille. Une question de Benjamin. Enfant des années 80, j'avais le sentiment que c'était le chômage qui nous angoissait pour le futur. Ce à quoi nos parents nous répondaient de travailler à l'école. Mais que répondre aujourd'hui à nos enfants face aux angoisses climatiques et écologiques, Célie Massini ? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui ont peur pour les rassurer ?
Alors déjà, je pense que ça dépend de l'âge des enfants. Je pense qu'il faut adapter le discours au public visé. Enfin, c'est comme.
Mais est-ce qu'il faut leur dire la vérité ? Enfin, là, il y a beaucoup de parents qui écoutent, qui ont des enfants parfois plus petits. Mais est-ce qu'il faut leur dire la vérité ? Est-ce qu'il faut essayer d'enchanter le futur ?
Alors, je suis pas sûre que mentir ce soit une solution dans. Ça n'a jamais été bénéfique dans la construction psychique des enfants de leur mentir. Après, je pense qu'il faut quand même adapter ce qu'on raconte à nos enfants en fonction de leur âge. Et donc ça, je parle pour vraiment les petits-enfants, ceux qui ont 6, 7, 8 ans. Enfin, on peut pas leur donner les articles scientifiques. On disait qu'ils... Voilà.
Jean Le Goff, vous souhaitiez réagir là-dessus ?
Je crois qu'avant de dire, il s'agit surtout d'écouter, d'apprendre à écouter, ce qui est très difficile, parce que pour pouvoir exprimer ses angoisses sur le changement climatique, j'ai besoin de savoir que la personne en face, elle va être d'accord pour m'écouter. Et en fait, quand on essaye de rassurer quelqu'un, c'est normal, hein, on se sent impuissant face à la souffrance de quelqu'un qu'on aime, mais des fois, il faut essayer de ne pas rassurer et juste recevoir la parole de l'autre.
Alors on verra, ça sera l'autre partie de cette discussion. Comment faire face aussi, et les clés peut-être pour aborder le problème. On vous a posé une petite question sur Instagram sur ces images justement du dérèglement climatique que vous voyez passer à longueur de journée maintenant. Est-ce qu'elles vous angoissent ? Eh bien vous êtes 90% à répondre oui sur le compte Instagram de la Terre au Carré. Et vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages.
France Inter. La Terre au Carré.
14h32, Camille, on passe au vert.
Avec le prix Nobel de physique annoncé tout à l'heure à midi. Je vous en parle parce que, en plus de l'italien Giorgio Parisi, qui est théoricien des systèmes physiques complexes et qui a été récompensé pour, je cite, la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à l'échelle planétaire. Ce prix Nobel de physique 2021, donc, distingue également deux chercheurs. Regardez, ils sont là pour leurs travaux sur les questions climatique, l'américano-japonais Tsukuro Manabe et l'allemand Klaus Hasselmann qui sont récompensés pour, je cite encore le jury, la modélisation physique du climat de la Terre et pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique. Alors de quoi et de qui s'agit-il exactement ? Je vais demander à, je vais pas vous le dire toute seule, je vais demander à Sandrine Bonny qui est en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique, médaille d'argent 2018 du CNRS. Donc, sur quoi portent précisément là, les travaux récompensés de Tsukuro Manabe et de Klaus Hasselmann ?
Alors, les travaux de Tsukuro Manabe, en fait, ils ont porté sur les sur la modélisation du climat et sur l'utilisation de ces modèles de climat pour l'étude du changement climatique. Donc Suki Manabe, c'était vraiment un pionnier à double titre. Hein. D'une part, par le fait de développer les premiers modèles physiques et numériques pour étudier le climat et la météorologie. Et ensuite, utiliser ces modèles pour comprendre la réponse du climat à des perturbations telles que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, par exemple. Klaus Hesselmann, il a travaillé sur d'autres choses. Bon, il a beaucoup travaillé sur l'étude de la variabilité naturelle du climat avec des modèles simples, mais il a aussi développé des méthodes qui permettent de mettre en évidence le rôle des activités humaines sur le réchauffement observé.
Et vous, alors, vous avez déjà rencontré M. Manabe. Vous pouvez nous raconter, c'était où, c'était quand et c'était comment?
Alors, j'ai rencontré Suki Manabe quelques fois, en conférence notamment. Et c'est quelqu'un de très sympathique, très enthousiaste, toujours très enthousiaste, qui rit beaucoup et vraiment passionné pour ce qu'il fait, absolument passionné.
Voilà, il y a des gens qui arrivent à rire du changement climatique, c'est bien.
Ça donne de l'espoir. Alors je précise un
peu. Ouais, mais vous savez, en discutant avec Suki Manabe, il nous a expliqué que quand il a fait ses premières études sur l'effet du CO2 sur le climat, en fait, c'était pas parce que c'était un problème sociétal à l'époque, hein, c'était à la fin des années 60. C'était pas vraiment sur les radars de la science, ces questions-là. C'était juste parce que c'était une question qu'il trouvait intellectuellement fascinante et qui lui permettait d'utiliser ses connaissances c'était un problème intellectuellement très, très intéressant pour lui.
Et justement, Sandrine Bonny, vous dites donc les travaux dans les années 60, parce qu'il faut le préciser, ces deux messieurs, Suki Manabe et Klaus Hesselmann, ne sont pas tout jeunes. Hein. L'américano-japonais, il a 90 ans, l'allemand, il a 89 ans. Mais donc les recherches, dès les années 60 sur le climat, existaient. Ce n'est pas un problème plus... Enfin, un problème, une thématique de recherche plus récente. Ce sont des précurseurs, vous le disiez.
Absolument, ça fait des plusieurs dizaines d'années qu'on étudie le climat et le changement climatique. Et en fait, à la fin des années 60, donc beaucoup autour de Suki Manabe, mais aussi d'autres personnes comme Jim Hansen, par exemple, aux États-Unis aussi, on fait des découvertes qui sont vraiment jeté les bases de l'étude du changement climatique. Ce qui est très impressionnant, c'est que la plupart des résultats auxquels ils sont arrivés à l'époque à l'aide de modèles de modélisation qui sont relativement simples comparés à ceux qu'on utilise aujourd'hui, en fait, ces résultats restent très valables 40 ans plus tard.
Oui, donc c'est des choses qui vous servent encore aujourd'hui, qui aident la recherche, qui ont été un peu fondatrices pour vos recherches. Il y a une chose qui vous gêne dans l'intitulé du jury aujourd'hui. Le jury parle d'avoir prédit de façon fiable le réchauffement climatique. Le terme fiabilité, vous aimez pas, vous?
Non, vous savez, quand on fait une anticipation de ce qui va se passer dans le futur, il y a toujours une part d'incertitude. En l'occurrence, quand on cherche à prévoir l'évolution future du climat, ça dépend bien sûr de notre compréhension et de notre capacité à modéliser la réponse du climat à une perturbation donnée, mais ça dépend aussi de cette perturbation elle-même, qu'on connaît pas précisément encore. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la façon dont les gaz à effet de serre vont évoluer dans le futur. Par exemple, ça va dépendre des activités humaines et de la décarbonisation de l'économie, etc. Donc forcément, les anticipations sont incertaines de ce fait.
Merci beaucoup Sandrine Bonny. Donc le prix Nobel de physique hein, qui récompense des recherches autour du climat, on peut y voir, j'imagine, quand même un message en un mot, oui, non?
Le message, c'est peut-être que ça reconnaît le fait que l'étude du climat et du changement climatique, c'est une branche de la physique. Et que c'est bien que ce soit reconnu de cette façon-là.
Ça vous angoisse, vous, à titre personnel, Sandrine Bonny, ou pas? Parce qu'on reçoit des chercheurs qui nous le confient, hein, parfois même hors antenne, nous dire que le fait de travailler là-dessus tout le temps, ça devient angoissant pour eux-mêmes.
Oui et non. Ça a un côté angoissant, c'est sûr, parce que c'est inévitable et qu'on voit bien qu'il y aura des tas de conséquences terribles. Et en même temps, je pense que de la même façon que les médecins qui travaillent dans les services d'urgence se désensibilisent un petit peu avec le temps, je pense que nous aussi, on se désensibilise un petit peu. Et pour autant, on prend toujours ça très au sérieux, évidemment. Mais bien sûr. Il faut arriver à vivre avec au quotidien, évidemment.
Bon, merci, ça doit être beaucoup. Une défense comme une autre.
Sandrine Bonny, directrice de recherche au CNRS, spécialiste donc du climat. Et je rappelle, prix Nobel de physique attribué pour moitié à l'américano-japonais Tsukuro Manabe et l'allemand Klaus Hasselmann, expert de la modélisation physique du changement climatique. Et pour l'autre moitié, à l'italien Giorgio Parisi, théoricien des systèmes physiques complexes.
Bravo à ces trois petits jeunes. Merci beaucoup, Sandrine Bonny. Et on poursuit notre dossier sur les troubles psychiques et liés justement aux enjeux environnementaux.
Avec les Afghanes, journée spéciale sur France Inter. زخم ناسور زمینم بس که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم بانوی آتش نشینم زخم ناسور زمینم هر قدم در هر مسیر
بار دوش به سرم من بردم چون همسرم من خواهرم درد سرم من
Elle s'appelle Ariana Saïd, c'est une chanteuse, compositrice et activiste afghane. C'est l'une des artistes musicales les plus célèbres dans son pays, militante des libertés, des droits des femmes. Elle a été plusieurs fois menacée de mort. En août de cette année, elle a quitté l'Afghanistan. Et dans ce titre-là que vous entendez, elle chante la douleur de l'exil.
Et on vous le rappelle, une journée spéciale pour les femmes afghanes sur France Inter. Vous pouvez retrouver sur franceinter.fr 5 façons concrètes d'aider ces femmes afghanes, ainsi que la liste des associations qui œuvrent pour leur avenir. Et notez que dès ce soir à 20h, vous pourrez écouter et assister en direct à un événement exceptionnel diffusé au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Événement qui réunit des artistes, interprètes afghanes et françaises dans un dialogue solidaire, musical et joyeux. Soirée présentée par Rebecca Manzoni et André Manoukian.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Tel le colibri qui emmène dans son bec quelques gouttes d'eau pour éteindre le feu, j'essaye de faire ma part en faisant du tri sélectif, en faisant attention à mes déplacements. Mais j'ai un petit peu l'impression qu'au bout d'un moment, les personnes les plus polluantes ne font pas beaucoup d'efforts. Je me rassure en me disant que malheureusement, je suis déjà un peu trop vieux pour souffrir de cette situation. Mais je pleure pour mes générations futures, notamment mes enfants, qui, eux, verront très certainement le dérèglement climatique se renforcer. Et eux en souffriront, je le crains vraiment.
Merci Jérémy pour votre note vocale sur l'application France Inter pour parler donc de l'angoisse climatique avec nos invités Antoine Pellissolo, Célie Massini et Jean Le Goff. D'ailleurs, le titre de votre livre chez Flammarion, ce sont les émotions du dérèglement climatique, Antoine Pellissolo. Mais il n'y a pas que le climat finalement autour de ces angoisses, hein. Ça cristallise beaucoup de choses quand même.
Oui, il y a tous les effets de l'environnement et on les découvre de plus en plus. C'est assez récent de se poser la question de l'effet de l'environnement, de l'écosystème dans lequel nous vivons sur notre bien-être et encore plus sur notre santé mentale. Et on a découvert beaucoup de choses qui sont des recherches assez récentes, mais de l'impact alors de la pollution atmosphérique notamment, du changement de température, de toutes les transformations de l'alimentation aussi.
Ça joue directement sur le psychisme, ça.
C'est sûrement des effets cumulatifs, mais individuellement, on peut repérer des effets directs sur une fragilité augmentée aux troubles. Alors, tous les troubles, en fait, hein, ça va de la dépression à la schizophrénie, en passant par les troubles du spectre de l'autisme, par exemple, quand malheureusement, ça touche des mères ou des femmes enceintes ou des petits-enfants. Donc, ça, l'impact, évidemment, cumulatif avec d'autres facteurs. Hein, c'est pas seulement cette action-là qui va prédominer, mais il y a vraiment des choses mesurables sur des augmentations qui sont vraiment significatives de certaines prévalences de ces troubles.
C'est ce que vous appelez les effets neuropsychiatriques, hein, du dérèglement climatique sur la santé mentale, avec de nombreux effets qui sont dans cet ouvrage. Camille.
Deux témoignages que je vais vous lire parce qu'ils sont complètement opposés. Enora nous écrit « J'étais très éco-angoissée il y a 2 ans. J'étais conductrice de travaux avec un bon salaire. J'ai constaté qu'être activiste ne changeait rien. Donc j'ai repris des études et actuellement je suis maraîchère. Je cherche de la terre pour m'installer. En attendant, je suis salariée au SMIC. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Mon éco-anxiété s'est dégonflée. » Donc ça, c'était le premier témoignage. Le deuxième, c'est Corinne qui nous écrit. « Je vous écoute, je suis percutée par ce que dit Jean Le Goff, écologue de formation. Moi, j'ai exercé plusieurs missions au sein du service public avec pour fil conducteur faire progresser les pratiques pour sauver l'environnement. Je suis épuisée, nous dit-elle, après plus de 20 ans de carrière et je cherche aujourd'hui une reconversion professionnelle pour me sauver la vie. » Ce sont les mots de Corinne, Antoine Pellissolo.
Oui, alors malheureusement, l'autre versant de ces détresses, c'est l'anxiété d'un côté, et puis la dépression de l'autre, hein, si on fait des analogies cliniques, et je crains que cette personne soit dans ce versant-là. On peut lui souhaiter quand même de pouvoir rebondir et de pouvoir trouver d'autres moyens de se réaliser, sans abandonner pour autant ses convictions et ses engagements. Mais malheureusement, ça fait partie des parcours, effectivement, qui peuvent être très lourds, liés à cette prise de conscience et un sentiment en général, une espèce d'un sentiment d'impuissance, hein, qui est sous-jacent à beaucoup d'états dépressifs.
Et pour rebondir sur ce que dit Enora, qui a carrément changé de vie et qui dit qu'aujourd'hui elle est heureuse, est-ce que dans les émotions dont vous parlez dans votre livre, dans le titre de votre livre, il peut y avoir, Célie Massini, finalement des émotions aussi positives? Ça a une découverte d'un certain courage, d'un certain espoir quelque part au fond de nous qu'on n'avait peut-être plus.
Oui, effectivement, notamment, enfin, la plupart des personnes qui vont évoquer des émotions positives et des transformations positives pour leur quotidien, c'est après avoir être passé à l'action finalement et avoir mis en œuvre les choses pour que leur quotidien soit en cohérence avec les valeurs qui étaient importantes pour elles. Ce qu'on voit finalement là dans ces deux témoignages où il y a une prise d'action individuelle dans les deux cas, je pense que il y a le fait que ça va être plutôt de l'ordre du burn-out quand finalement ça envahit tout l'espace psychique et qu'il n'y a plus de place pour autre chose, pour du positif, pour des loisirs, etc. Et ça peut arriver quand l'angoisse elle est tellement importante qu'on n'arrive plus à penser à autre chose que toutes les pensées, toute la vie finalement se tourne entièrement vers cette inquiétude. Et c'est là que effectivement une aide peut être nécessaire auprès de professionnels pour soulager du coup cette souffrance psychique qui est bien réelle.
Jean Le Goff, chez les militants justement, vous dites que beaucoup cherchent des formes de cohérence dans leur vie pour sortir de la culpabilité. Ça veut dire quoi exactement ?
Alors oui, la question de la cohérence, elle est intéressante, ça apparaît énormément dans les entretiens. Ça veut dire des choses différentes selon les personnes. Pour certaines personnes, c'est consommer bio et local. Pour d'autres, au contraire, c'est se mettre moins de pression sur les actes de la vie quotidienne et militer à fond la caisse.
Ouais.
Mais comme disait Célie tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est quand on se prend la responsabilité à soi tout seul. Donc voilà, se sentir responsable, oui, mais c'est une responsabilité ancrée dans le collectif.
La culpabilité, vous l'avez ressentie, vous aussi, hein, je crois, au départ.
Oui, évidemment.
C'était les deux sentiments. C'était à la fois l'impuissance,
ouais,
et le sentiment de culpabilité. Hein.
Oui, oui. La culpabilité, je la ressens toujours. C'est parfois très compliqué d'acheter un vêtement, de faire des courses. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup retrouvées dans les entretiens.
Chez les militants, ouais. Effectivement. Ouais.
Et ce que j'ai observé... Donc moi, j'ai pris des parcours militants, j'ai demandé aux gens de me raconter leur vie. Et autour de la responsabilité, j'ai observé que quand les gens sont soutenus dans leurs actions constructives, quand ils sont étayés sur cette part-là constructive, la responsabilité est vécue comme un souci de l'autre, ouais. Et plus comme une culpabilité persécutrice.
Alors justement, tiens, sur le soutien, on a le message de Sophie sur Instagram qui nous dit « Comment faire quand on a des enfants qui se fichent complètement de la cause environnementale lorsque leur mère est à 100% dedans au point d'en déprimer ?» Antoine Pellissolo.
Oui, alors autre cas de figure, je crois que c'est évidemment des problématiques familiales qu'il faut envisager sous cet angle-là, et les enfants, il faut les laisser aller à leur vitesse, et je pense que forcément, à un moment donné, surtout si la mère a cette préoccupation, eh ben, ils seront sensibilisés forcément assez vite.
Ouais, est-ce qu'on peut pas se dire que finalement c'est aussi peut-être une bonne chose que tous les enfants soient pas pris dans...
Bien sûr pas, en tout cas, dans cette considération. Dans quelque chose qui soit une souffrance et une obsession en effet. Et juste pour rebondir sur les aspects positifs, il y en a vraiment un qui est central et qui est aussi mesurable, c'est quand même le contact avec la nature, sous toutes ses formes, qui ouais. apporte vraiment une réponse à certaines des souffrances. Pas à tout, hein, évidemment, mais à certaines des souffrances. Donc vraiment, cette solution-là, qui est les choix dont on a parlé tout à l'heure, retour à la nature, qui même en ville peut se décliner sous plein de formes, à proximité des espaces verts. C'est vraiment un élément qui doit être considéré comme majeur, notamment au plan collectif, parce qu'il faut l'organiser.
Ouais. Antoine Alors, Pellissolo, vous pouvez nous faire une petite consultation express.
C'est ce que j'allais dire. Pour Camille C, peut-être, non ?
Certaines Camille C, de Paris. Paris, Maison de la Radio. Une émission comme ça, tous les jours, du lundi au vendredi, la plupart du temps, des fois on essaye de faire des choses plus positives, mais la plupart du temps, malheureusement, ce sont des sujets angoissants puisque reflétant la catastrophe en cours. Est-ce qu'on peut, Mathieu ou moi, faire un burn-out ? Est-ce que ça peut vraiment nous taper sur les nerfs ? C'est la troisième saison qui commence.
C'est une question tout à fait innocente.
Tout à fait innocente. Comment on fait quand on commence à sentir vraiment que...
C'est un vrai sujet de discussion, hein, même pour oui. l'équipe, parce qu'on pense évidemment aux auditeurs.
Aux auditeurs. Qu'on a, oui. mais pour les garder aussi, les auditeurs, c'est... tant qu'à faire, mais...
Bien sûr, alors c'est essentiel d'en avoir conscience, de savoir qu'on est fragile vis-à-vis de ça, c'est sûr, ça existe, le risque. Il est très individuel, chacun a ses défenses ou pas. Et je pense que l'essentiel, c'est le partage, donc ce que vous faites en ce moment, le fait de reconnaître les choses, de le sublimer dans ce que vous faites quand même comme travail utile, je pense, à la collectivité. Et puis, par moment, de décrocher. Et c'est sûr que dans n'importe quelle situation de stress, parce que c'est une forme de stress, il y a des moments où il faut souffler, ce qu'on disait tout à l'heure, faire autre chose.
C'est pour ça qu'on roule en 4x4 et qu'on prend des avions le week-end, c'est tout. C'est pour décompresser sur la question.
Et alors, bon, là, l'exemple de l'humour est vraiment...
Il rigole, Mathieu, évidemment.
C'est l'humour qui va nous sauver, de toute façon. Donc, c'est par ce biais-là aussi.
Ouais.
L'important, c'est d'avoir des soupapes. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui revient, et notamment dans les témoignages qu'on a récoltés dans le livre, les personnes qui sont militantes, etc., qui disent que parfois, elles ont besoin de couper, elles ont besoin de faire autre chose, de penser à autre chose, et que ça n'enlève absolument rien à leur engagement. Mais c'est juste que pour pouvoir être utile pour la collectivité, il faut quand même déjà prendre soin de soi. Et je pense que ça va dans une philosophie plus globale de prendre soin. Finalement, les émotions du dérèglement climatique, c'est ça. C'est prendre soin de soi et prendre soin de la planète et de l'écosystème dans lequel on vit.
Donc les auditeurs aussi qui nous écoutent tous les jours, ouais. mais que ça angoisse.
On va prendre soin de vous.
Prévoyez une petite détente après ouais. vous avoir écouté.
On va prendre soin de soi mutuellement, évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant. On va aborder d'autres questions sur les clés aussi, pourquoi pas, pour faire face à cette problématique, juste après Silk Sonic. suite Silk Sonic sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Bonjour, moi je viens d'avoir 70 ans, j'ai 3 enfants, j'ai 3 petits-enfants et j'ai depuis toujours une conscience écologique assez forte puisque depuis René Dumont je vote écologiste et c'est un sujet, l'éco-anxiété, dont je n'ose même pas parler à mes enfants bon, puisqu'ils ont des petits-enfants et que je n'ose pas aborder ça de fond parce que moi-même je crois que je serais jeune aujourd'hui, je serais plutôt no kids. Voilà, à bientôt.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Antoine Pellissolo, pour répondre à cette grand-mère.
Vraiment, le message, c'est qu'il faut quand même en parler. Je pense qu'elle a un bagage qui lui permettra sûrement quand même d'être très utile aussi à ses enfants, ses petits-enfants, avec bon, une forme de effectivement d'inquiétude, mais qu'il faut à tout prix partager pour que cette transmission se fasse, justement, parce que la question de la transmission est vraiment importante.
Et Nils, justement, sur franceinter.fr, nous écrit que lui, en tant que jeune papa, il essaye de transformer cette angoisse en force. Je me dis que tout reste à faire, nous écrit-il. Un nouveau monde, une nouvelle approche de la nature est à venir.
Ça, c'est bien, ça fait du bien.
Merci Nils.
Oui.
Et sur Instagram, on vous pose justement cette question. Qu'est-ce qui vous fait garder espoir? Parce qu'il faut garder espoir. Alors, trois tendances se dégagent. Je vais faire un petit peu comme à la bourse, là. négatif. Alors, on a Manon, on a qui d'autre? On a Maëlle, on a... un autre anonyme, voilà, bon, qui nous disent rien, vraiment rien ne me fait garder espoir. Voilà, Maëlle nous écrit, il n'y a pas d'espoir, l'espèce humaine est ainsi, il faut apprendre à vivre avec. Bon, il y a les gens qui misent beaucoup sur le local, les initiatives locales, Karine par exemple, les gens qui nous disent ça commence par nous, Gaëlle nous écrit beaucoup d'initiatives voient le jour lentement, mais sûrement. Et alors, la tendance qui se dégage le plus, c'est la jeunesse. Hein. On a Maïwen qui nous écrit la jeunesse d'aujourd'hui motivée et déterminée. On a également Patrice, l'engagement de la jeunesse. Bon, et puis il y en a plein d'autres, Mika, Belette, Laetitia, j'adore tous vos surnoms,
ben c'est
ou
bien.
Vos prénoms, voilà.
Merci en tout cas pour vos messages. Jean Le Goff, vous nous dites aussi dans ce travail que vous avez mené, dans ce vécu de l'angoisse, qu'il y a quelque chose d'une traversée dans laquelle on passe par plusieurs phases. C'est important ça aussi peut-être de le dire, non ?
Oui, c'est-à-dire que souvent on a des visions un peu simples sur l'angoisse. Enfin, je crois qu'on est en train un peu de sortir de ça. Mais en 2013, moi, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait vraiment ce préjugé que l'angoisse était forcément négatif et qu'il fallait pas la ressentir, parce que c'était un affect paralysant. Donc moi, j'ai essayé de montrer que c'était plus compliqué que ça, qu'il y avait différentes angoisses, différentes manières de faire face aux angoisses, et surtout que ça s'inscrivait dans le temps.
Est-ce qu'ils sont d'accord, nos amis psychiatres, là-dessus, Antoine Pellissolo?
Bah c'est, comme vous disiez, une traversée. On sait qu'il y a des étapes, on sait qu'il y a des transformations, en effet.
Ouais.
Et l'angoisse, on peut la sublimer, on peut la... effectivement, et surtout l'accepter. Je crois que c'est la base, c'est accepter les émotions pour pouvoir ensuite les dépasser. Et la plupart des méthodes aujourd'hui, d'ailleurs, de psychothérapie, passent par cette forme d'acceptation et d'approche, on dit, un peu globale. C'est-à-dire, c'est très corporel, c'est... et puis vraiment, l'activité physique, par exemple, dans un milieu naturel, peut être aussi un très bon levier. Enfin, il y a beaucoup d'actions à mener dans ce sens-là.
Ah, on termine par un message, Camille.
Voilà, Nathalie pour l'activité physique qui justement nous dit « Faites du yoga, le yoga sauvera le monde ». Et Marine qui nous écrit « En vous écoutant, je ne me sens plus seule à avoir des idées de culpabilité et d'impuissance. Votre émission m'apporte un immense soulagement. Mille merci. Eh » Ça fait du bien à lire.
Ouais, super.
Merci infiniment, amis auditrices, auditeurs. Vous poursuivez d'ailleurs, on poursuit le dialogue sur le répondeur de la Terre au carré. N'hésitez pas à nous laisser vos messages en écho à cette émission 01 56 40 45 45 pour nous dire ce que vous inspire tous les propos qu'on a tenus et puis évidemment les clés pour en sortir. 01 56 40 45 45 dès maintenant. On passera vos messages dès demain dans le répondeur de la Terre au carré. Merci beaucoup à tous les trois. Je renvoie sur ce livre Les émotions du dérèglement climatique chez Flammarion.